Le point de Max.
Le point de Max, l'actu du jour avec une touche de Larouche.
Il y a une touche de CV aujourd'hui parce que Larouche m'a cédé son micro du point de Max pour la journée. Il va revenir demain en forme, je vous le garantis. Il n'était pas à l'hôpital aujourd'hui. Pour ceux qui suivent Boulevard 102.1, rien à s'inquiéter. Il est en forme, il est allé profiter de sa vie et de la vie en général du côté de Montréal en fin de semaine. Donc, dès demain, vous allez revoir Maxime Larouche à l'antenne du Point de Max. Chose promise, chose due, on va aller jaser de certaines nouvelles en termes de politique directement avec notre analyste politique, Victor Henriquez, qui est au bout du Zoom. Bon matin, bon lundi, Victor.
Salut Pascal, bon début de semaine à tout le monde.
Oui, bon début de semaine, c'est le cas de le dire. Pour certains parents, c'est le retour au travail après la relâche et une journée pédago, trouver de l'aide supplémentaire pour ce 24 heures-là. Avec les enfants, je ne sais pas si du côté de Montréal, c'est la même chose pour toi, mais les enfants sont en congé, nous ici à Québec, une journée de plus.
Ils reviennent en pédago, moi aussi, mais j'étais tellement heureux ce matin de les voir partir. La relâche a un mauvais nom. Dans le fond, ça devrait être une semaine... C'est une semaine qui n'est aucunement une vacance pour les parents. Belle vacances pour les enfants. On devrait avoir une relâche professionnelle la semaine suivante, juste pour se remettre de nos émotions d'avoir été à temps plein avec nos enfants pendant une semaine. Là, ceux qui nous écoutent doivent penser que je suis un père indigne, mais vous comprendrez l'humour derrière ça.
Oui, puis beaucoup doivent comprendre aussi. C'est tellement trippant d'avoir ce temps-là avec les enfants. Puis en même temps, ben, le travail, ça roule, ça s'accumule. Puis c'est ton cas parce que tu es analyste politique. Puis l'actualité depuis... au moins un an, puis je veux dire deux, là, pour... j'ai jamais vu ça, moi, en 13 ans à la radio, qu'il y ait autant de choses au provincial, au fédéral, au municipal, à l'international, qui grondent et qui font en sorte de donner le pouls à nos journées. La semaine passée, on finissait sur la Cour suprême qui dit « Non, non, les demandeurs d'asile vont avoir le droit à utiliser nos filets sociaux, soit d'envoyer leurs enfants dans des garderies subventionnées. » On recommence la semaine encore en immigration. Cette fois-ci, Ottawa serre la vis à des dizaines de milliers de demandeurs d'asile. On a des nouvelles règles. C'est dans le projet de loi Omnibus C12. C'est un peu contradictoire avec ce qu'on a fermé comme dossier la semaine passée en ouvrant aujourd'hui ce pan-là, toujours sur les demandeurs d'asile. On dirait qu'on a vraiment pris une strate de la population, du moins de l'immigration, en main, Victor. Puis sur des choses, on leur empêche, sur d'autres, on ouvre les valves. Comment on se démêle là-dedans?
C'est drôle parce que j'ai passé la fin de semaine à José avec Dumont, justement, qui me posait exactement cette question-là. Comment on se démêle dans tout ça? Je pense qu'il y a deux choses qui sont super importantes. La première, c'est qu'il faut quand même observer qu'au niveau du gouvernement fédéral, il y a un changement majeur qui s'est orchestré depuis l'arrivée de Mark Carney au pouvoir. Rappelez-vous de Justin Trudeau qui avait, en 2019, dit « Venez chez nous, les portes sont ouvertes ». C'était cette invitation un peu ridicule, honnêtement, à la planète au complet à venir ici. En 2023, on avait 177 000 demandes d'asile à l'époque. Imaginez, 177 000.
Suite à cette annonce-là.
Suite à cette annonce-là, en 2025, il en restait 32 000. On parle d'une baisse qui est quand même assez drastique. Et là, avec les nouvelles règles, on s'attend à ce que ça continue à baisser. Je vous donne le chiffre global. Partout sur la planète, il y a environ 8,2 millions de demandeurs d'asile. Pourquoi c'est important d'avoir ces chiffres-là? C'est qu'il faut ramener un peu de relativité dans tout ça. Parce que lorsque la Cour suprême est sortie vendredi, vous avez vu tous les partis politiques déchirer leur chemise en disant « Mon Dieu, la Cour suprême nous oblige à donner des places en CPE ». Entre vous et moi, des places en CPE, il en manque environ 34 000. Et le nombre exact de demandeurs d'asile en CPE, on ne l'a jamais vraiment su. On nous donne une évaluation de 6 000. On ne réglera pas le problème, même si on enlève tous les demandeurs d'asile des CPE. Là, ce que Mark Carney fait, c'est que dans le projet de loi, on vient raffermir les règles pour éviter des explosions du nombre de demandeurs d'asile. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ce n'est pas qu'au Canada, on est contre l'immigration. Je pense qu'au Canada, ce qu'on veut, c'est de la prévisibilité. C'est la même chose au Québec. On veut de la prévisibilité, on veut des gens qui contribuent, on veut des gens qui parlent français. Grosso modo, j'ai toujours dit, si au Québec, tu parles français et que tu travailles, les gens, ils sont très heureux de t'avoir ici. C'est un peu ça aussi que le vendredi nous a amené, c'est que si on veut que les gens travaillent et qu'ils contribuent, ben, il faut qu'ils aient accès aux services publics. Parce qu'ultimement, et c'est ça que la Cour suprême dit, si une femme est obligée de rester à la maison, parce qu'on le sait, dans les familles immigrantes particulièrement, mais dans toutes les familles, hein, ce sont beaucoup les femmes qui portent la famille, qui portent le fait de rester à la maison avec leurs enfants, parce que c'est discriminatoire envers les femmes. Mm-hmm. Et là, ce qu'on fait en diminuant la pression sur le demandeur d'asile, c'est qu'on rend cette décision-là réaliste, selon moi. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que moins on a de demandeurs d'asile, moins la portée de cette décision de vendredi va être grande, et plus on va s'assurer d'arrêter d'avoir cette espèce de phobie que les demandeurs d'asile vont scraper nos systèmes publics. Quand, entre vous et moi, ceux qui scrapent les systèmes publics, c'est les politiciens quand ils prennent des décisions à court terme.
Tu vois, là, tu commences cette nouvelle de la semaine passée sur laquelle on a fini la semaine, puis qu'on n'a même pas le temps de digérer parce qu'on en passe à une autre aujourd'hui au niveau un peu du fédéral. Mais elle a fait beaucoup jaser, puis les juristes allaient de soi avec ta position, du genre, ben là, on est en train d'empêcher finalement ces gens-là d'aller sur le marché du travail et de s'intégrer. On se connaît, on est assez amis dans la vie, on aime ça jaser de politique et tu connais mon style. Puis j'ai envie de te demander, mais toi, t'es-tu biaisé là-dedans parce que t'es issu de l'immigration? Est-ce que ta vision est celle-ci? Parce qu'en fin de semaine, moi, j'avais les deux, là. J'avais des gens qui allaient de votre position et d'autres qui disaient, ben là, moi, je paye assez cher, j'ai de la misère à avoir des services. J'aimerais ça que ce soit ceux qui sont réellement Québécois, là, qui sont... ici au Québec, qui a accès à ces services-là en premier. J'avais les deux discussions et des gens qui étaient vraiment sur leur position.
Mais ça, c'est une construction qui est très récente d'ailleurs. Hein. Moi, je vais te le dire, je suis rentré ici comme demandeur d'asile. Okay? C'est comme ça, on est rentré, on est arrivé à la frontière, on a dit, moi, je demande l'asile au Canada. D'ailleurs, on a été refusé 2 ans après, on est parti au Mexique refaire nos papiers. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est important. Peut-être que j'ai un conflit d'intérêt personnel, mais moi, je te dirais que c'est surtout que, connaissant le parcours de l'immigrant, je sais la valeur aussi que ça a dans l'accélération de l'intégration, d'avoir accès à ces services publics-là. Il faut faire attention à une chose, hein, parce que j'avais le même discours de quelqu'un qui me disait « Ah, tu sais, mais moi, j'ai payé toute ma vie. Je comprends, mais c'est un peu comme le système de santé et tous nos systèmes publics. Les services publics, là, c'est une grosse mutuelle. C'est un gros pot dans lequel on met tous de l'argent. Et on commence tous à mettre de l'argent à partir du moment où on travaille. Parce que quand on travaille, on paye des impôts, on paye des taxes. Alors que tu sois un Québécois de souche depuis longtemps, que tu sois arrivé ici à 2 ans, que tu sois demandeur d'asile, dès que tu travailles et que tu paies des impôts, tu mets de l'argent dans le pot. L'idée, c'est que le plus de gens possible viennent mettre d'argent dans le pot quand ils sont ici. Moi, je ne dis pas que ça en prend plus. D'ailleurs, aujourd'hui, la décision de Mark Carney de raffermir en immigration, c'est une excellente nouvelle. Notamment, ce qu'il vient faire, c'est que les gens vont avoir 1 an seulement quand ils arrivent dans d'autres statuts pour demander l'asile. Bravo! Quand tu sais que tu es en danger, tu n'as pas besoin de 2 ans pour réfléchir. Tu sais que tu es en danger. Okay? Ouais. Donc ça, on applaudit. Mais une fois que les gens sont ici, ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent quoi? Ce qu'on veut, c'est qu'ils mettent le plus d'argent dans le pot possible. Et pour que les gens mettent de l'argent dans le pot, ça prend des services publics. De plein de genres de services publics. Ça prend du logement, ça prend des CPE. Maintenant, il y a une chose. Dans les garderies, il manque 34 000 places. Pas 34 000 places à cause des demandeurs d'asile, mais 34 000 places à cause des gouvernements qui ont peu investi là-dessus, à cause du fait qu'on n'a jamais indexé le coût des CPE, à cause du fait qu'on a créé un système et que quand le gouvernement Couillard avait monté le prix, tous les partis étaient sortis en disant « non, il faut que ça coûte 8 $ ». Mais la réalité, c'est que la vie coûte plus cher et que les salaires sont plus élevés aussi et que faire des places en CPE, c'est plus cher que jamais. Alors, mettons nos énergies aux bonnes places. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est des gens qui mettent de l'argent dans le pot pour qu'il y ait le plus de services possibles. Il faut se rappeler une chose, cette année, pour la première fois au Québec, il y a plus de morts que de gens qui naissent et de gens qui arrivent. Ce qui veut dire qu'il y a plus de gens qui utilisent beaucoup de services parce que plus on est âgé, plus on utilise des services. Plus on est vulnérable, plus on utilise des services que de gens qui mettent de l'argent dans le pot. Alors, si je l'explique de cette façon-là, ça a l'air un peu simpliste, mais c'est qu'à un moment donné, quand on entend les gouvernements récents, on entend Bernard Drinville, j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon dire « oui, mais là, si vous savez, c'est espèce de nous contre eux, il ne prend pas en considération une chose, c'est que les gens, quand ils sont ici, on veut qu'ils contribuent. Parce que s'ils ne contribuent pas, ils coûtent pas mal plus cher qu'une place en CPE, je dois te dire.
C'est vraiment intéressant, Victor, ta position dans tout ça. Puis on va pouvoir en reparler. Puis je trouve ça intéressant aussi, toutes les nuances qu'il faut appliquer dans le dossier. Puis je pense que c'est dans ces enjeux-là où il faut pas se positionner fermement, mais être très ouvert au discours autour, au vécu autour, aux petits détails qu'on n'a pas vu venir, parce que je le comprends en tant que contribuable, de se dire, ben moi, j'ai de moins en moins de ressources, de moins en moins de filets sociaux, de moins en moins de services, mais je paie. Puis si on est juste dans cette bulle-là, puis on attribue ça à ceux qui arrivent, on se leurre. On oublie tellement de choses, puis certainement, ça nuit à notre vote. On en reparlera, Victor Henriquez, je trouve ça fort intéressant, puis c'est loin d'être terminé comme discussion. Avant de passer au maire Vaillancourt qui va recevoir un chèque de Laval pour payer des impôts d'argent volé, moi, ça me fascine. Je comprends que c'est pas à Québec, mais ça va jouer dans notre imaginaire. Je veux quand même faire quelques minutes sur les nominations partisanes de François Legault. Ouais. Il place ses pions, il veut remercier ceux qui ont été, qui ont travaillé corps et âme à ses côtés avant qu'il quitte le 12 avril prochain. Ça veut dire quoi? On s'assure de quoi dans ces nominations partisanes de Legault?
On s'assure de maintenir d'abord de la continuité dans ce qu'on a voulu implanter comme gouvernement. Parce qu'il faut, on pense aux gens, par exemple, dont le nom est sorti dans l'article, et puis je fais un total disclosure, comme disent les Anglais, notamment Michel Léveillé, je le connais très bien depuis plusieurs années, c'est un professionnel extraordinaire, celui qui actuellement est secrétaire général aux communications gouvernementales, qui voit son mandat renouvelé pour 5 ans. Michel Léveillé, notamment, est arrivé avec le gouvernement caquiste, a été le premier secrétaire général aux communications. C'est un poste extrêmement important parce que le secrétaire général vient un peu s'assurer que les communications du gouvernement soient arrimées, donc que le politique et la machine soient arrimées avec le même genre de communication. Là, on renouvelle son mandat pour 5 ans, donc on va un peu faire porter le mandat au prochain gouvernement. On assure de la stabilité. Ce qu'on veut du côté de M. Legault, c'est s'assurer que sa façon de faire les choses dure plus longtemps que
Ouais.
lui. Mais
Ça
ça, ce que
fait
ça nous
très
rappelle,
François Legault, là.
ça fait très François Legault. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que ça nous rappelle comment les promesses vieillissent mal. Pourquoi je te dis que les promesses vieillissent mal, Pascal? C'est parce qu'en 2006, François Legault, il déchirait sa chemise sur la question des nominations partisanes. Il l'a refait en 2012, en 2014, en 2018. À chaque élection, il venait nous dire comment c'est inacceptable, comment caracac, les nominations partisanes, il n'y en aurait pas. Mais les nominations partisanes, c'est inévitable dans un gouvernement. Parce que tu veux toujours nommer des gens en qui tu as confiance, des gens qui sont de ta gang. C'est toi puis moi, un jour, mettons que toi, Pascal, tu te retrouves en politique, puis qu'on se connaît, puis que tu as des gens de confiance autour de toi, puis que tu as besoin de gens à nommer dans un poste intéressant, ben, tu vas aller vers des gens que tu connais, dont tu connais le parcours, avec qui tu as une relation, parce que c'est normal qu'on fasse ça, parce que c'est ça qu'on fait lorsqu'on veut s'entourer de bonnes personnes. On va chercher de la compétence, mais aussi on va chercher de la complicité aussi. Et c'est là où François Legault a fait une promesse qu'il ne pouvait pas tenir et qu'aucun gouvernement ne peut tenir. Donc là, avis à tous ceux qui nous écoutent. S'il y a quelqu'un au prochain gouvernement qui vous dit qu'il ne fera pas de nomination partisane, c'est de la bullshit.
Un menteur.
Parce que tous les gouvernements font ça. Tous les gouvernements le font et c'est inévitable.
Victor, entre la politique fédérale, celle provinciale, celle municipale, entre le fait qu'on a un point de presse actuellement de Pierre Poilievre sur les pipelines, hein, lui, là, il se positionne sur l'essence, puis il parle à travers le monde, puis il veut avoir l'air ministrable et premier ministrable. Mais il y a quelque chose qui revient dans l'actualité. Puis quand on dit que ça nous rattrape toujours, c'est l'ex-maire Vaillancourt du côté de Laval. Aujourd'hui, cette nouvelle-là, je pensais jamais la lire. Allons-y en 2 minutes, mais il va recevoir un chèque, 1 million de dollars, pour payer des impôts sur de l'argent volé.
Bon, ce qu'on comprend dans les dernières minutes, c'est que le maire de Laval dit « je ne le ferai jamais, le chèque ». OK, parfait. Donc là, on a une bataille ici. Qu'est-ce qui se passe? Le maire Vaillancourt, il a volé 7 millions de dollars à la ville de Laval qui a remboursé il y a quelques années. Il y avait ça dans des comptes en Suisse. Il l'a redonné à la ville. Mais là, Revenu Canada, ils disent « attention, ça, c'est un revenu. Donc, il faut que tu payes tes impôts sur tout revenu ». Parce qu'on comprend, c'est que même quand c'est un revenu qui est issu de la criminalité, et surtout, même quand c'est un revenu que tu as remboursé à la ville. Donc là, la ville se fait dire ben, « il faut que tu fasses un chèque de 1 million parce que moi, Revenu Canada, je suis supposé être le premier qui se paye. Revenu Québec aussi devait se payer sur cet argent-là, mais Revenu Québec a renoncé. Moi, je m'attends à ce qu'aujourd'hui, Revenu Canada renonce. Monsieur Champagne, qui est ministre responsable de Revenu Canada, je suis convaincu qu'il est sur le téléphone. Il n'y a personne qui veut vivre avec ça au gouvernement fédéral. Ce million-là doit rester dans les coffres de
Ben oui,
Laval.
mais oui, mais
Mais
oui.
mon Dieu, que ça aurait été plus simple qu'ils y renoncent dès le début. Et là, ça nous rappelle comment, au gouvernement fédéral, des fois, il y a des fonctionnaires qui pèsent sur le Enter de l'ordinateur, mais qui ne regardent pas ce qu'ils sont en train de faire
Sans
à ce moment-là.
réfléchir. Merci beaucoup, Victor Henriquez. C'est vraiment stupide. Puis, ça nous ramène à quel point, des fois, le genre de discours discriminatoire par rapport à la politique. Ben, il y a raison d'être. Et là, je dis pas dans son ampleur, parce que tu sais que je suis une fervente défendresse de la politique et tout ça, mais ça m'aide pas pantoute en ondes, mais pas du tout, puis je le donne aux auditeurs.
T'as tellement raison. Puis tu sais, Pascal, Soraya Martinez, la mairesse de Montréal, a fait un discours il y a une semaine, puis elle a dit un truc que j'ai trouvé hyper intéressant. Elle a dit, à un moment donné, on peut-tu se concentrer à bien faire la base avant d'avoir des grands projets?
Ouais.
Et ça, là, c'est tellement la phrase parfaite pour tous les politiciens qui vont essayer de se faire élire, puis je leur passe le message. Occupez-vous de la base. Ça ne sert à rien d'avoir des grands projets si vous n'êtes pas capable de faire les choses de base. Et dans les choses de base, il y a le fait de ne pas aller chercher 1 million de dollars dans la poche des Lavallois parce qu'on veut payer les impôts du voleur Vaillancourt qui était là il y a quelques années. C'est le genre de choses où ça rend les citoyens hyper sceptiques. C'est ridicule. Espérons que ça se fasse. et qu'on n'aurait pas ça dans les prochaines années.
Et on leur donne. Merci beaucoup, Victor Enriquez. C'est un plaisir de t'avoir parlé aujourd'hui. Analyste politique qu'on peut suivre sur différentes plateformes. À bientôt.
À bientôt.
Salut. Je faisais signe. Non, merci, merci, Victor. Je dois te lâcher, je dois te laisser parce qu'on a un dernier invité dans le Point de Max.
Le Point de Max. Le Point de Max. Restez là. Dans quelques instants, on en jase à Boulevard 102.1.
Et notre dernier invité du Point de Max, c'est pour parler finances parce que c'est un aspect qu'il ne faut jamais oublier. Et c'est qui d'autre qu'on peut appeler dans ce temps-là? Frédéric Boisvert, qui est au bout du fil, président chef de direction. Frédéric Boisvert, ici à la Chambre de commerce. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à cette fin d'émission à Boulevard 102.1. Vous allez bien?
Bonjour Pascal, tu m'entends bien?
Oui, je t'entends très, très bien. Je te vous vois, c'est parfait. On passe au tutoiement, on se connaît assez pour ça.
Ouais, let's go.
Et on termine l'émission ensemble parce que la semaine passée, j'aurais aimé te parler sur les finances du Québec. Il va y avoir dépôt du budget Girard le 18 mars prochain. Ouais. Et on a des priorités ici dans la ville de Québec. On ne sait pas encore à quoi s'attendre dans ce budget 2026-2027-là, mais tu as eu la fin de semaine pour penser aux priorités. Quelles sont-elles, Frédéric Boisvert?
Ben écoute, première chose, c'est que, si je peux me permettre, là, un truc qu'on va apprendre lors du dépôt du budget, c'est que les finances s'embellissent au niveau de la réduction du déficit. Ça, c'est clair qu'on s'attend à ce qu'il y ait une réduction de déficit. Maintenant, concrètement, par rapport à la Chambre, nos demandes à nous, c'était clair, c'est que, un, il y a une super déduction fédérale pour la productivité qui fait que tout investissement dans le domaine, par exemple, du manufacturier et autres, tout au niveau des bâtiments industriels, tout ce qui est IA, robotisation, automatisation, ça fait œuvre d'une carrément d'un write-off au niveau des taxes. C'est que à la limite que à la hauteur que tu investis, tu as un write-off au niveau de tes taxes, qui est excellent. Au Québec,
qu'est-ce que tu veux dire? Explique-le, il y a des gens chauds qui suivent pas là.
Bon, grosso modo, c'est que, par exemple, t'es dans un bâtiment industriel, tu fais, par exemple, tu connectes ton système de données avec un système d'intelligence artificielle pour augmenter ta productivité. L'entièreté de ton investissement fédéral peut être déduit, donc te permettre de payer moins d'impôts.
D'accord.
Comme un crédit d'impôt, mais c'est l'équivalent que tu as en réduction d'impôts, la valeur équivalente que tu as investie dans ton entreprise pour la productivité. Ça, à Québec, ils l'ont répliqué, mais en partie, c'est parce qu'ils le font pour plusieurs années. Ils l'étalent. Nous, ce qu'on leur dit, c'est faites ça là, année 1, pour que le Québec devienne un vrai powerhouse manufacturier, industriel de haute technologie et autres. Donc, ça, c'est un point très, très important. Le deuxième, je te dirais, puis ça, tout le monde va comprendre ça, là, c'est la maudite paperasse. Ça, on l'a dit au ministre des Finances, là. Il y a beaucoup, beaucoup trop de requis actuellement au niveau de la conformité des entreprises. Les entrepreneurs là perdent des centaines d'heures par année. Puis pour des petites entreprises de 4 employés et moins, là, c'est quasiment du 34 000 $ en temps de travailleurs qui est dépensé dans s'assurer qu'on répond à telle ou à telle réglementation. Puis ça, la réglementation, là, le gouvernement y en pond à toutes les semaines. Là. Fait que là, on a dit, là, c'est assez. Là il faut réduire le fardeau réglementaire de nos entrepreneurs. Les entrepreneurs en ont par-dessus la cravate, ils sont plus capables, il faut que ça arrête.
Oui, puis c'est une situation d'urgence quand même là-dedans. Puis Québec est souvent jugé comme étant une région, Frédéric Boisvert. La Chambre de commerce se bat pour ça. Tu es un ancien de la Dévie, tu sais comment ça marche au niveau commercial ici dans la ville. Et on est un peu souvent l'enfant pauvre de Montréal. As-tu l'impression que ce budget fédéral-là va englober à peu près tout le Québec cette fois-ci, ou ça va être encore une concentration montréalaise?
Je pense qu'il y aura, tu sais, que ce soit des mesures, par exemple, la productivité, que ça touche une entreprise de Montréal ou de Lévis ou de Québec, moi, je pense que ça va être quand même, la portée va être provinciale. Peut-être ce à quoi tu fais référence, c'est peut-être des projets d'infrastructure qui seraient mentionnés dans le budget, des projets spécifiques, précis, territoriaux. Ça, pour Québec, on a notre liste. Le maire a fait une liste, mais écoute, va savoir qu'est-ce qui va être exaucé là-dedans.
Ouais.
Mais chose certaine, moi lorsqu'on s'attend, là, si possible, là, c'est là, si on résumait ça très simplement, là, on veut une baisse du fardeau réglementaire, de la maudite paperasserie qui, en retour, justifie toujours des milliers de postes de fonctionnaires dont on n'a pas de besoin à Québec. Fait qu'on peut réduire la taille de l'État, on peut libérer le potentiel de productivité de nos entrepreneurs, première chose. Deuxième chose, allégeons le fardeau fiscal de nos entreprises partout au Québec et à Québec également. C'est le temps plus que jamais dans un contexte de guerre tarifaire, de partenaire commercial, principal partenaire commercial qui nous fait faux bond.
Oui.
Faut donner de l'oxygène à nos entreprises. Donc, que de réduire le fardeau fiscal, c'est un bet envers l'avenir parce que oui, temporairement, tu te prives de revenus, mais après ça, tu crées une situation de croissance économique qui vient facilement suppléer aux pertes de revenus. Donc, des gains et des récoltes supplémentaires pour le gouvernement parce qu'ils investissent dans nos entreprises. Ça fait que ça, c'est très, très, très important. Puis, dernier point, Pascal, je l'ai mentionné au ministre des Finances, je le mentionne tout le temps régulièrement, on a un gros défi à Québec sur le reprenariat, le transfert d'entreprise. Il va y avoir plus de 5000 entreprises qui vont changer de main au cours des prochaines années. C'est le plus gros transfert de richesse de l'histoire de la région. C'est des milliards en capitaux. Ça nous prend des programmes qui nous aident pour s'assurer que tous les entrepreneurs âgés entre 50 et 70 ont leur plan de relève et qui peut, pour les repreneurs également, aider lors de la reprise à combler des dettes technologiques. C'est-à-dire, quand tu achètes une entreprise, ben des fois, l'entrepreneur n'a pas investi sur un ERP, sur un système en IA, sur de l'informatisation.
Mais là, ça permettrait d'aller aider.
Ben, ça permettrait, ça l'aiderait à ces repreneurs-là qui vont en avoir plein des bottines au niveau financier, de rembourser des prêts d'acquisition. Ça l'aiderait pour combler cet accord-là, cette dette technologique-là, qui peut devenir très coûteuse au final.
Merci beaucoup, Frédéric Boisvert, président, chef de la direction au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. J'ai l'impression que vos réclamations sont oui pour la ville, mais tellement globales pour la province. Et on va voir ce que nous attend le prochain budget. Comment est-ce qu'on va pouvoir ingérer et appliquer ce prochain budget-là au niveau d'Éric Girard, qui a travaillé pour 2026-2027. Ça sera déposé le 18 mars prochain. À la prochaine, Frédéric.
Merci, Pascal. Bye-bye.
Bonne journée. C'est tout pour le Point de Max aujourd'hui. On s'en va dans On en jase avec Jeff Fortin. Restez là à Boulevard 102.1. C'est tout un midi, encore une fois, en actualité qu'on vous a préparé.
Boulevard, c'est des idées, des voix, des rendez-vous. 102.1. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Boulevard 102.1 pour regarder le Pit Stop, l'Open Mic et le Caucus. Découvrez nos podcasts originaux, sans oublier nos grandes entrevues et nos moments forts. Du contenu qui informe, qui questionne, qui fait réagir.
Si on veut ramener des familles dans le Vieux-Québec, c'est quoi la stratégie si on n'a pas les éléments de base?
Tout ça sur la belle petite chaîne YouTube de Boulevard 102.1.
Ce segment d'émission présenté par la Force Kia.
Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
Profitez de 7 000 à 12 000 de rabais et subvention sur les Niro EV et sur des EV4. Avec 10 000 véhicules vendus en 2025, Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair domine grâce à vous.
Et si tu donnais un sens à ton été? Chez Laura Les Merveilles, chaque journée est une occasion de tisser des liens, de t'amuser et surtout,